sommes le vendredi 2 février 2024. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue, content de vous retrouver. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin. Au Kenya, au moins 2 morts et 222 blessés dans un incendie causé par une explosion de gaz à Nairobi. Au Sénégal, la campagne pour la présidentielle doit démarrer ce dimanche sur fond de rejet d'une demande de libération du candidat détenu Bassirou Diomaye Faye. En Guinée, des femmes mènent un mouvement de protestation rare sous la junte au pouvoir à Conakry et combat dans la bande de Gaza malgré les espoirs de nouvelles trêves. Football d'emblée avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Côte d'Ivoire. Les rencontres comptant pour les quarts de finale débutent aujourd'hui à Abidjan. Sans plus tarder, le journal de la CAN avec notre envoyé spécial Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Deux grosses rencontres au programme. Les désormais redoutables Super Eagles du Nigeria tombent du Cameroun en huitième de finale, font face à l'Angola au stade Félix Houphouët-Boigny à 17h temps universel. Les sélectionneurs des deux équipes étaient en conférence de presse d'avant-match au Palais de la Culture de Trècheville. Pour le coach du Nigeria, il faut s'attendre à une rencontre difficile.
Will be a tough match.
Ce sera un match serré.
Our team needs play the maximum commitment.
Notre équipe devra faire preuve de maximum d'exigence, d'engagement, de rigueur, de sacrifice, d'une bonne organisation, d'un bon état d'esprit, mais aussi profiter du bonheur de battre une bonne équipe, pas un grand nom, mais une très bonne équipe pour atteindre les demi-finales.
José Pesero, sélectionneur du Nigeria. Après cette rencontre Nigeria-Angola à 20h au stade Alassane Ouattara, toujours ici à Abidjan, la RDC fait face à la Guinée. La Guinée qui retrouve les quarts de finale d'une CAN près de 10 ans après. La dernière fois que le Sili National a atteint cette étape de la compétition, c'était en 2006 avec son actuel coach, alors joueur. Pour le sélectionneur de la RDC, les Léopards ne sont pas favoris dans cette rencontre.
C'est un match qui est assez ouvert contre une très belle équipe avec la Guinée, des joueurs qui jouent dans des bons clubs. Voilà, on aura par contre un plan de jeu, bien sûr, qui sera fait sur nos forces. On adaptera peut-être en fonction des quelques lacunes qu'on a pu voir s'il y en a, parce que j'ai trouvé vraiment cette équipe de Guinée très très complète avec des bons matchs. Mais on a l'habitude, nous, de faire preuve d'humilité parce qu'on est encore perfectible, on a encore des marges de progression, mais aussi on est conscient aussi de nos points forts.
Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC. Les Léopards ont rendu la vie difficile aux demi-finalistes mondiaux marocains en phase de poule avant de renvoyer les pharaons d'Égypte, septuple champion d'Afrique à la maison. Pas de quoi impressionner le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara.
Moi je vous dis que ce soit même des Marseillais en face, c'est pareil. Et je crois que mes gars sont vraiment dans le même état d'esprit. Et c'est clair que demain, il y a soit vous, soit nous, on va rentrer à la maison. C'est la logique de cette compétition. On va essayer que ce soit vous. Et après, je ne sais pas comment on va jouer, mais on va tout faire pour vous renvoyer avec votre chicotte là. On va essayer de vous renvoyer demain.
Kaba Diawara, sélectionneur de la Guinée. Les deux derniers quarts de finale se jouent samedi. À 17h au stade de la paix de Boaké, la Côte d'Ivoire fait face au Mali. Et à 20h, on aura Cap-Vert Afrique du Sud au stade Charles Kona Bani de Yamoussoukro. Cette CAN 2023 se poursuit et emballe de plus en plus les supporters ivoiriens depuis que leur pays, au bord de l'élimination puis ressuscité, a sorti le champion en titre, le Sénégal, en huitième de finale. La CAN va donc bon train, les polémiques aussi, ce qui est censé être une fête pour l'Afrique et pour le pays hôte en particulier, n'est pas perçu comme tel par tous. Nous nous sommes rendus au marché d'Adjamé, un quartier populaire d'Abidjan, pour recueillir le ressentiment des femmes par rapport à cette CAN.
Comme d'habitude, ces femmes du marché d'Adjamé, une commune populaire d'Abidjan, battent tranquillement à leurs occupations. Entre klaxons des véhicules ruelles trop embouteillés, chacune se fraye un chemin à la recherche du client. La CAN, elles y pensent, mais leurs préoccupations se trouvent ailleurs. Beaucoup disent ne pas avoir les moyens d'aller suivre les matchs au stade.
On n'a pas les moyens pour payer les tricots 15 000, 20 000. Bon, on demande au président de nous partager des tricots. On va supporter nos pays.
Où on est là, là on a envie de partir dans un stade, mais on n'a pas le maillot pour porter pour partir. On a besoin de maillot.
Ok, donc c'est parce que tu n'as pas un maillot que tu n'es pas allé au stade. Mais même si tu n'as pas un maillot, tu peux aller au stade.
Oui, j'ai envie de partir, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour partir.
Les prix des billets pour accéder au match vont de 5 000 à 15 000 francs CFA. Il faut débourser environ 60 000 francs CFA pour s'acheter un maillot original de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, autour de 5 000 à 15 000 francs CFA pour les maillots contrefaits. Trop cher pour ces personnes qui luttent pour survivre. Pas les moyens de se rendre au stade, mais les discussions vont bon train sur la compétition.
La Côte d'Ivoire, ce n'est pas du yaya. On a trop joué, mais cette année, Coupe là ne peut pas venir en Côte d'Ivoire, c'est aller dans d'autres pays. On prend où on gagne. La Côte d'Ivoire prend où on gagne. C'est tout.
La CAN ou d'autres femmes, c'est une occasion de faire des affaires.
Il y a un bandit.
Combien?
Non, je ne sais pas. Là.
Je ne vais pas récupérer ton argent.
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Mais c'est peut-être qu'il y a un bandit.
Tellement c'est beaucoup.
Je n'ai pas encore compté l'argent là-haut. Je n'ai pas encore compté l'argent là-haut. Voilà, pareil, là, ce n'est pas encore fait. Ça reste un peu.
La presque élimination de la Côte d'Ivoire avait ramolli les fans des éléphants. Mais depuis sa résurrection indirectement par le Maroc et sa qualification pour les quarts de finale devant le champion en titre, le Sénégal, les supporters ivoiriens ont retrouvé un nouveau souffle de vie.
Yacouba Ouidraougo, Abidjan, pour VOA Afrique.
C'était donc le journal de la CAN. Je vous le disais en titre, au Kenya, au moins 2 personnes ont été tuées et 222 autres blessées dans un vaste incendie causé par une explosion de gaz durant la nuit écoulée à Nairobi. Un camion chargé de gaz a explosé, provoquant une énorme boule de feu qui s'est largement propagée à Ambakasi, un quartier de la capitale kenyane, indique le gouvernement ce vendredi. De nombreux pompiers étaient toujours à pied d'œuvre pour tenter de maîtriser l'incendie. De larges colonnes de fumée noire s'échappent encore du brasier. Au Sénégal, la campagne électorale pour la présidentielle du 25 février doit démarrer dans 2 jours avec le candidat Bassirou Diomaye Faye derrière les barreaux. Rosine Mounezero.
Depuis que le Conseil constitutionnel a publié la liste des 20 candidats à la présidence, des voix se sont élevées pour demander la libération de Bassirou Diomaye Faye. Un juge a rejeté mardi cette demande. Chaque candidat à la présidence doit enregistrer son premier message de campagne vendredi ou samedi, conformément aux règles régissant les communications de campagne à la télévision nationale. Bassirou Diomaye Faye est en prison depuis 2023, mais sa candidature a été approuvée, faisant de lui le premier candidat emprisonné à participer à une élection présidentielle. Il fait partie des centaines de personnes arrêtées depuis 2021 après de violentes manifestations. Il était le numéro 2 de PASTEF, le parti dissous de l'opposant Ousmane Sonko, lui aussi en prison. Le Parlement sénégalais a approuvé mercredi une commission d'enquête sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel qui a disqualifié plusieurs candidats, dont celle de Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade.
En Guinée, des femmes ont bloqué l'accès au centre de Conakry hier avant d'être rejointes par d'autres manifestants lors d'une protestation spontanée et rare depuis que la junte dirige le pays. Michel Joseph.
De petits groupes de femmes ont dressé des barrages routiers à l'aide de pierres et de tout ce qu'elles ont pu trouver. Le coup d'envoi de la manifestation a été donné dans un quartier qui a été l'un des plus touchés par le gigantesque incendie qui a ravagé le principal dépôt de carburant en décembre et avait fait au moins 25 morts. Les femmes ont réclamé l'aide qui leur a été promise après cet incendie pour réparer leur maison. Elles ont aussi dénoncé la hausse des prix des produits de base. Des jeunes gens se sont joints à la manif et ont jeté des pierres sur les forces de sécurité qui ont répondu par du gaz lacrymogène. Par la suite, les manifestants ont été dispersés et les routes ont été dégagées. La junte au pouvoir a interdit toutes les manifestations en 2022 et a arrêté un certain nombre d'opposants, de membres de la société civile et de journalistes. L'accès à Internet est restreint depuis plusieurs semaines.
Une manifestation a eu lieu à Bamako hier pour acclamer le retrait du Mali, mais aussi du Burkina et du Niger de la CEDEAO. Des rassemblements ont été rapportés dans d'autres localités maliennes, comme Kayes et Sikasso, à l'initiative des autorités et d'organisations de soutien à la junte. Les 3 pays sahéliens, dirigés par des militaires, ont fait part dimanche dernier de leur sortie sans délai du bloc ouest africain, accusés d'être inféodés à des puissances étrangères. Pendant ce temps, des compagnies aériennes nigérienne desservant Niamey ont décidé de ne plus embarquer de passagers français vers le Niger. Au même moment, au Mali, la junte a ordonné le retrait de la chaîne France 2 des bouquets télévisuels. Les détails avec Zélie Dicou.
Selon les autorités nigériennes, tout passager de nationalité française n'est plus autorisé à rentrer sur le territoire nigérien. Par conséquent, ces derniers ne seront plus acceptés sur nos vols sur cette destination, indique une note interne d'Air Burkina. La compagnie Royal Air Maroc indique qu'une autorisation préalable des autorités nigériennes est nécessaire. Le gouvernement nigérien n'a pour l'instant pas confirmé que les Français souhaitant venir à Niamey sont maintenant persona non grata. Pour leur part, les autorités au Mali ont ordonné le retrait de la télévision France 2 de tous les bouquets télévisuels pendant 4 mois. La haute autorité de la communication reproche à France 2 de faire une apologie du terrorisme et de tenter de démoraliser les troupes et la population et de n'avoir pas équilibré avec une réaction officielle du Mali. Les autorités maliennes ont déjà suspendu France 24 et RFI.
En Tunisie, Rached Ghannouchi, le chef incarcéré du parti Ennahda, a été condamné hier à une nouvelle peine de prison de 3 ans pour financement illégal de sa formation. Nanik Talani.
Rached Ghannouchi a été condamné à 3 ans de prison pour financement étranger de son parti d'inspiration islamiste Ennahda, a précisé son avocat Sami Triki. Son gendre, Rafik Abdesalam, ancien ministre des Affaires étrangères, jugé par contumace dans la même affaire, a été lui aussi condamné à 3 ans de prison ferme. M. Ghannouchi, 82 ans, a été arrêté le 17 avril 2023 après avoir déclaré que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si les partis de gauche ou ceux issus de l'islam politique comme le sien sont éliminés. Le 15 mai, il a été condamné à 1 an de prison pour apologie du terrorisme, une peine durcie en appel à 15 mois de prison en octobre dernier. Les autorités tunisiennes ont aussi fermé tous les bureaux du mouvement islamo-conservateur Ennahda dans le pays au lendemain de l'arrestation de son chef, Rached Ghannouchi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les combats entre l'armée israélienne et le Hamas font toujours rage dans la bande de Gaza ce vendredi, en dépit de premiers signes laissant entrevoir une nouvelle trêve et la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens après bientôt 4 mois de guerre. Eric Manirakidza.
Un nouvel accord pour une trêve et pour libérer des otages et des Palestiniens détenus par Israël est actuellement à l'étude sur la base d'une proposition émise à l'issue d'une réunion en France le week-end dernier, entre représentants américains, israéliens, qataris et égyptiens. Les autorités israéliennes indiquent que 132 otages restent détenus à Gaza, dont 27 seraient morts. Selon le ministère des Affaires étrangères du Qatar, les deux parties ont accepté les prémices qui conduiraient à une prochaine pause. Le Hamas a fait état cette fois-ci d'une proposition en 3 phases, dont une pause dans les combats de 6 semaines, avec prolongation possible. Israël devra libérer entre 200 à 300 prisonniers palestiniens n'étant pas détenus sous un régime de haute sécurité, en échange de 35 à 40 otages captifs à Gaza, selon une source au sein du Hamas, proche des médiateurs égyptiens et qataris. De 200 à 300 camions d'aide humanitaire pourront aussi entrer chaque jour dans la bande de Gaza.
Le président américain doit assister aujourd'hui à l'arrivée solennelle ici aux États-Unis des dépouilles de 3 soldats américains tués en Jordanie dimanche dernier, une attaque attribuée à des combattants pro-Iran à laquelle Joe Biden a promis de répondre. Les corps de William Jerome Rivers, Kennedy Laydon Sanders et Breonna Alexandria Moffett, qui étaient tous basés dans l'État de Géorgie et qui ont été tués par une attaque de drone près de la frontière syrienne, seront reçus avec les honneurs militaires sur la base aérienne de Dover, dans le Delaware. Le président Biden, qui répète ne pas vouloir d'escalade régionale ni de conflit ouvert avec l'Iran, est sous pression pour répondre fermement à Téhéran.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. L'ouverture de la campagne présidentielle au Sénégal est prévue pour ce dimanche avec l'un des principaux concurrents derrière les barreaux. Le camp de Bassirou Diomaye Faye indique que la justice a de nouveau refusé de remettre en liberté le candidat. Et puis, nous en parlions hier matin, le Parlement a ajouté à la fébrilité ambiante en approuvant mercredi, après des débats tumultueux, la mise sur pied d'une commission d'enquête sur le processus qui a abouti le mois dernier à la validation par le Conseil constitutionnel de 20 candidatures et à l'invalidation de dizaines d'autres. Pour un décryptage, Namik Talani a joint à Dakar l'analyste Bakary Domingo Mané.
Voilà, la commission a pour rôle d'enquêter sur des présupposés, disons, corruption de magistrats du Conseil constitutionnel. Donc, le candidat Karim Wade, qui est le candidat du PDS, ancien fils de président, a introduit une requête dans ce sens au niveau de l'Assemblée nationale. Et finalement, l'Assemblée a décidé de mettre en place la commission d'enquête. Enquêter si réellement, vraiment, les magistrats ont fait l'objet de corruption et pourquoi un certain nombre de candidatures a été écartée. Donc, c'est autour de cela que la commission va travailler.
Et quelles peuvent être les implications de cette commission sur le processus électoral?
Mais aucune implication, parce qu'au fond, même la commission n'a même pas le droit d'auditionner, n'est-ce pas, les magistrats en question du Conseil constitutionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand les gens disent oui, ils ont introduit cette commission parce que simplement, ils veulent pousser certains magistrats à la démission, même si ces magistrats l'ont démissionné, ça n'a aucun impact. Imagine deux magistrats qui démissionnent sur les sept, mais ça n'a aucun impact. Le processus continue, puisque nous avons connu par le passé une démission du président de la Cour constitutionnelle, plus un magistrat qu'on avait tué à l'époque. Cela n'a pas empêché vraiment le processus de continuer. Donc, il n'y aura aucune implication, de mon point de vue, sur le processus électoral qui va suivre son cours.
Et donc, la campagne va commencer dimanche sans problème?
Oui, la campagne va commencer dimanche sans problème, parce que le processus ne s'arrête pas. Au contraire, la campagne va démarrer et c'est pourquoi, dans l'opinion, les gens se disent que cette initiative du PDS, c'est juste une farce, c'est pour juste amuser la galerie, mais ça n'a pas d'impact vraiment sur le processus.
La justice a maintenu en détention Bassirou Diomaye Faye. Quelles peuvent être les implications de cette détention, surtout pour la campagne qui commence dimanche?
Pour la campagne qui commence dimanche, je pense que là, les tenants du pouvoir donnent une opportunité au camp de Bassirou d'avoir un thème de campagne, parce que les gens diront, mais attends, est-ce que nous sommes dans un état de droit? Comment se fait-il qu'un candidat à la présidentielle soit maintenu dans les liens de la détention, alors que ses conseillers, disons juridiques, ont demandé vraiment la liberté provisoire, mais une liberté provisoire à laquelle, disons, les tenants du pouvoir n'ont pas voulu accéder. Donc, l'un dans l'autre, pour moi, le fait de refuser la liberté provisoire à un candidat qui reste, n'est-ce pas, dans les liens de la détention, évidemment, c'est un thème de campagne. Donc, ceux-là qui vont parler à son nom diront, voyez, nous sommes dans un pays à double vitesse, on laisse les uns, on laisse les autres, et ainsi de suite. Deuxièmement, ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est qu'il y a des candidats vraiment parmi les 20 qui ont décidé de battre campagne pour le candidat Diomaye. Donc même le temps d'antenne, ils vont l'utiliser à faire la campagne de Diomaye Faye. C'est pourquoi je dis, sa détention au contraire arrange bien le camp de l'ex-pasteur. Ça n'arrange pas du tout les tenants du pouvoir, n'est-ce pas, qui le laissent dans les liens de la détention.
Le journaliste Bakary Domingo Mané était en ligne de la capitale sénégalaise.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Nigeria, une coalition de plus de 40 associations de la société civile a envoyé une pétition à Bola Tinubu, le chef de l'État, lui demandant de s'attaquer à l'insécurité qui a empiré depuis son entrée en fonction. Ce cri d'alarme a fait suite à une série d'enlèvements dans le pays. D'Abuja, le reportage de Timothy Obiezu, le récit est de Rosine Munezero.
Selon un rapport publié cette semaine par la coalition de la société civile, au moins 2400 personnes ont été tuées et près de 1900 autres enlevées depuis le mois de mai de l'année dernière, lorsque le président Bola Tinubu a pris ses fonctions. La coalition appelle les autorités à prendre des mesures concrètes pour résoudre le problème. Awal Khaf Sanjani, directeur exécutif du Civil Society Legislative Advocacy Center, s'exprime au nom de la coalition.
Notre pays est assiégé. Notre pays a été pris par des criminels, des terroristes, des bandits et des criminels politiques. Et les Nigérians sont tués comme des fourmis. Chaque jour, au réveil, c'est une tuerie après l'autre. Nous ne pouvons pas continuer comme ça.
Ce rapport est publié dans le contexte d'une vague d'attaques violentes dans le pays, y compris à Abuja, la capitale. Ces dernières semaines, des bandes armées ont perpétré des enlèvements contre rançon. Deux personnes de familles différentes ont été tuées comme avertissement à ceux qui ne payent pas. Dans l'état d'Ekiti, au sud-ouest du pays, des hommes armés ont enlevé 6 élèves et 3 enseignants qui revenaient de l'école. Le même jour, des hommes armés ont attaqué des communautés locales et tué 2 chefs traditionnels. Le président nigérian Tinubu a condamné ces attaques et ordonné aux forces de sécurité de capturer les auteurs. Mais l'analyste de la sécurité Chidi Omeje estime que l'échec du gouvernement est à l'origine de la persistance du problème.
La cause profonde de toutes ces choses, c'est la mauvaise gouvernance qui engendre la pauvreté, la frustration et la colère des Nigérians. Il existe une corrélation entre la pauvreté, la mauvaise gouvernance et l'augmentation de la criminalité. Il faut adopter une approche multidimensionnelle et, bien sûr, s'appuyer sur le renseignement.
L'année dernière, le candidat Bola Ahmed Tinubu s'est engagé à résoudre les questions de sécurité du pays s'il était élu président. Après avoir pris ses fonctions, il a mis à la retraite plusieurs chefs de service, mais ses détracteurs estiment que ce n'est pas assez. Mardi, les membres de l'Assemblée nationale ont rencontré les chefs de service pour discuter de la sécurité dans le pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En République démocratique du Congo, la commission électorale prévoit l'enrôlement des électeurs de Masisi, Rutshuru, de même que de Kwamout, du 1er au 20 juillet prochain, et ce en vue des élections législatives et locales, désormais fixées dans ces endroits au 5 octobre. Pour rappel, les habitants de ces 3 territoires ont été privés de vote à la fin de l'année dernière en raison du problème sécuritaire qui y prévaut. Eddy Sango a joint à Kinshasa maître Gary Sakata, élu de la province de Kwilu.
Le fait que la CENI ait fixé une date montre en suffisance que le président de la République tient à ce que amener d'abord la paix dans cette partie de la République, ça c'est d'une part, mais que d'autre part, que l'Assemblée nationale soit représentée par les élus provenant de toutes les circonscriptions et donc de tous les territoires de la République. Alors pour nous, nous considérons ça comme étant un message à la population de Kwamout et d'ailleurs, pour montrer que le gouvernement est déterminé à pacifier tous ces espaces, quoi qu'il en soit.
Pas plus tard que mardi, il y a eu d'autres tueries à Fadiaka. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas?
Fadiaka sont situés à 2 niveaux. Premièrement, il y a déjà une partie de Mombondo qui occupe ces lieux, mais il y a également le fait que certains villages voisins commencent à se régler mutuellement les comptes. Et parce qu'ils ont des conflits latents et passés, ils continuent à se régler les comptes. Donc tel village va attaquer tel autre village parce qu'ils avaient déjà des soucis ou des problèmes antérieurs. Donc c'est sous ce temps qu'il faut situer l'attaque de Fadia. Mbousse est sur le territoire de Kwamout, effectivement. C'est un village qui est situé sur la rivière Kwango et les assaillants sont allés, les Mombondo là sont des Mombondo qui sont allés attaquer, ils ont tué des gens. Et tout le monde a fui vers Fambondo et Fassila, certains même par la nage. Actuellement, ils sont à Fambondo et à Fassila, dormant à la Belle Étoile. Et parfois, la journée, les enfants étudient dans ces écoles, alors que la nuit, ça devient un dortoir pour tous les réfugiés. De même, en ce qui concerne l'église, c'est pareil. Et comme il n'y a plus ces derniers temps, donc c'est vraiment très, très dramatique. En plus que ces enfants n'étudient pas parce qu'ils ne sont pas dans leur milieu naturel. Et à ce jour, ces Mombondo occupent toujours Moussié et il n'y a aucune présence de l'autorité publique.
Maître Gary Sakata, élu de la province de Kwilu en RD Congo.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Les ministres de la communication de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sont réunis à Bangui, en République centrafricaine, pour élaborer des stratégies ayant pour objectif de mettre un terme aux discours de haine dans la région. Ils sont d'avis que de tels discours ont exacerbé les tensions et déclenché des combats meurtriers, entraînant le déplacement de millions de personnes. Des responsables de missions onusiennes dans les États en difficulté de la CEAC prennent part à cette rencontre. Le compte-rendu de Moki Edwin Kinzeka est relaté par Nathalie Barge.
Les ministres de la communication de la région ont déclaré que certains hommes politiques influents, des manias du monde des affaires et des dirigeants communautaires utilisent la radio, la télévision et les médias sociaux pour propager des informations qui compromettent la paix et la stabilité. Le premier ministre centrafricain, Félix Moloi.
Le forum donne une occasion pour les ministres de la communication et de l'information de la CEAC de mettre la dernière touche et de s'approprier de cette stratégie de prévalider par les hauts dirigeants de l'Afrique centrale. Au discours de haine, de construire un avenir meilleur, en plein de paix, d'harmonie et de respect mutuel.
Selon des responsables camerounais, la crise séparatiste dans l'ouest du Cameroun, qui a fait plus de 6000 morts, a été alimentée en partie par la propagande sur les réseaux sociaux de chefs rebelles basés en Europe et aux États-Unis. La haine sur les réseaux sociaux a également alimenté un conflit en cours entre éleveurs et pêcheurs dans le nord du pays et au Tchad, qui a fait plus de 100 morts et 80 000 déplacés. Joanne Adamson, chef adjointe de la mission des Nations Unies en République centrafricaine, estime que le forum sur les discours de haine constitue une étape importante vers la recherche de solutions pour stopper les combats entraînant des déplacements massifs de population.
L'organisation de ce forum témoigne de l'engagement de la région à défendre et soutenir les valeurs nécessaires à créer un environnement favorable à la consolidation de la paix, la sécurité et la promotion des droits de l'homme afin d'apporter une réponse à cette problématique qui gangrène l'espace civique et politique dans les pays membres et constitue une menace réelle pour la cohésion sociale, la paix et la stabilité dans cette région.
Les ministres ont déclaré qu'ils adopteraient une législation pour punir les personnes qui propagent des discours de haine. Ils ont également convenu de contrôler les contenus préjudiciables qui, selon eux, sont monnaie courante sur les réseaux sociaux. L'anthropologue camerounais Charlie Gabriel Mbok, spécialiste en résolution des conflits, estime que les pays d'Afrique centrale devraient lancer des campagnes contre les discours de haine dans les villes et villages où la violence est récurrente.
Nous sommes en Afrique centrale, nous avons des structures familiales. Le principe de résolution des crises et des conflits est la concertation, les conciliations. Sous l'arbre à palabres. C'est la technologie endogène de résolution des crises que l'Afrique connaît très bien. C'est une technologie endogène propre à l'Afrique qui s'est manifestée de manière éclatante avec les Bichacha et qui a fini par convaincre le monde qu'en Afrique, même quand on discute longtemps, c'est pour arriver à mettre tout le monde dans le cercle du consensus.
À l'issue de cette rencontre à Bangui, les ministres de la communication des pays d'Afrique centrale vont soumettre leurs recommandations au gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale dans l'espoir de pouvoir rétablir la paix grâce à l'éradication des propos haineux et xénophobes répandus dans les régions en conflit communautaire.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui, édition matinale du vendredi 2 février 2024. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagnio. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide, depuis la capitale américaine, je vous souhaite une très belle journée et un merveilleux week-end. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.
America.